chers frères et sœurs, nous voilà de retour dans 1 Corinthiens 12 ce matin. Page 236 dans la Bible rouge. Voilà, n'hésitez pas à vous servir, faites comme Vincent. Ici, derrière, pas de problème. On a déjà commencé à lire ce chapitre. Et voilà ce qu'on y a déjà vu. Voilà ce que Paul a déjà expliqué aux Corinthiens. La première chose qu'il leur a dit, c'est qu'on peut posséder tous les dons, ainsi que la sagesse humaine, et en même temps, on peut être ignorant de ce qui concerne les réalités spirituelles. L'apôtre nous apprend que s'il y a d'authentiques manifestations de l'Esprit de Dieu dans l'Église, il peut y avoir également des contrefaçons. Et ces contrefaçons sont le fruit des tentatives de perversion qui émanent du diable. Paul, dans les premiers versets de ce chapitre, nous montre comment les distinguer. Celui qui déclare que Jésus-Christ est Seigneur est animé de l'Esprit de Dieu. Car il affirme à propos de Jésus la même chose que Dieu. Les manifestations spirituelles doivent donc être évaluées de manière doctrinale à la lumière des Écritures. Nous devons nous soumettre à l'Écriture. Pas la manipuler pour l'employer à notre convenance, pour y introduire nos propres idées, mais nous y soumettre. Ensuite, on a vu que dans le domaine spirituel, Dieu est à l'œuvre dans toutes les personnes de la Trinité, dans les trois personnes de la Trinité. Et Paul souligne l'harmonie qui existe dans la Trinité divine par la collaboration, l'unité et la diversité d'une action commune et concertée. Et on a vu que les trois domaines de l'action de Dieu sont la grâce donnée par le Saint-Esprit, les dons, généraux comme le pardon, le salut, la providence, mais aussi les dons particuliers, le service, à l'image de Jésus qui est venu comme serviteur de Dieu et serviteur des hommes, la puissance de vie comme Dieu qui est créateur et insufflateur de la vie. Nous poursuivons ce matin au chapitre 12 et au verset 7 pour quelques versets. Et Paul poursuit et il dit ici, à chacun l'esprit se manifeste d'une façon particulière en vue du bien commun. L'esprit donne à l'un une parole de sagesse, à un autre, le même esprit donne une parole de connaissance. L'un reçoit par l'esprit la foi d'une manière particulière, à un autre, par ce seul et même esprit, des dons de la grâce sous forme de guérison, à un autre des actes miraculeux, à un autre il est donné de prophétiser, et à un autre de distinguer entre les esprits. À l'un donné de s'exprimer dans des langues inconnues, à un autre d'interpréter ces langues. Mais tout cela est l'œuvre d'un seul et même esprit, qui distribue son activité à chacun de manière particulière comme il veut. Les anciennes versions commencent par « or ». Peut-être quelqu'un a ça au début de ce verset, hein. C'est pas le cas dans la version du Semeur que j'ai lue. Mais « or », il y a une conjonction qui marque un moment particulier d'un raisonnement. « Or », la collaboration, l'unité et la diversité de la Trinité ont pour conséquence pratique que Dieu manifeste sa présence sur terre par l'Église. Dieu se manifeste par ses enfants. Il se manifeste au travers de chacun d'entre eux et il se manifeste en faveur de tous. Dieu se manifeste par ses enfants. Et les manifestations de Dieu n'ont rien à voir avec les manifestations qui ont cours un peu partout dans notre pays et dans notre monde. C'est pas le même mot. Enfin, il sonne pareil, hein, mais il n'a pas le même sens, comme c'est souvent le cas en français. La manifestation dont il est question ici, c'est le fait, le moyen par lequel Dieu se manifeste, le moyen par lequel il devient sensible. et se manifester, c'est se révéler clairement dans son existence et dans sa nature. Quel est l'enseignement de Jésus au sujet de la manifestation de Dieu? Il dit dans Jean 16, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et il vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend ce qui est à moi, et qu'il vous l'annoncera. » L'Esprit Saint prend de ce qui est à moi, dit Jésus, et au Père, et il vous le donne. Alors on peut se poser la question, mais qu'est-ce qui est à Jésus? Qu'est-ce qui est à Jésus et qu'il nous donne? Est-ce que vous vous êtes déjà posé cette question? Jésus, qu'est-ce que tu as et que tu nous as donné? Qu'est-ce que tu as reçu du Père et que tu nous as donné? Qu'est-ce que tu es venu nous apporter de la part du Père? Alors Jésus ne l'a pas caché. On peut en avoir des pages pleines. Hein. J'ai relevé pas mal de références. Alors je ne vais pas toutes les lire avec vous citer toutes les références précises. Hein. Mais voici ce qu'il dit dans Matthieu par exemple. Hein. « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour l'accomplir. » Si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous par Jésus. Il est venu nous apporter le royaume de Dieu. Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie comme la rançon de beaucoup. N'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejeté ceux qui baptisaient est devenue la principale de l'angle? C'est du Seigneur que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. Les démons, hein, reconnaissent en Jésus celui qui est venu pour les perdre. Mais pour ceux qui sont malades, Jésus dit, ce ne sont pas ceux qui se portent bien, qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Car le Fils de l'homme est venu, non pas pour être servi, mais pour servir et pour donner sa vie pour beaucoup. Je ne suis pas venu... Pardon, il y a pas mal de textes qui répètent, hein. La parole a été faite chair, nous dit Jean dans son prologue. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire unique, la gloire du Fils unique venu du Père. Je suis venu au nom du Père, dit Jésus. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est vrai et vous ne le connaissez pas. Le voleur vient pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Et devant la croix, Jésus dit, « Père, maintenant mon âme est troublée, que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. » Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Il dit, « Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde point, c'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger, mais pour sauver le monde. » Jésus savait qu'il était venu de Dieu et qu'il s'en allait de Dieu. Il dit, « Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » De quoi Jésus parle-t-il? De guérison? De miracle? Est-ce qu'il est venu nous révéler un enseignement? Est-ce qu'il est venu pour voilà un nouveau courant philosophique dans l'humanité? Est-ce qu'il n'est pas plutôt venu pour nous révéler sa nature divine, ses perfections, pour nous révéler le Père, pour nous révéler la bénédiction, le salut le pardon que Dieu a en réserve pour les humains qui placent leur confiance en Jésus. Si on poursuit, qui est Jésus et pourquoi il est venu ? On peut se pencher sur ce qu'il dit de lui-même. Il dit « Je suis doux et humble de cœur. Je suis ému de compassion pour cette foule. Je suis avec vous tous les jours. Je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Je suis le pain de vie. Je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Je suis d'en haut, dira-t-il aussi. Hein ? Si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Jésus leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous connaîtrez ce que je suis et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m'a enseigné. Et puis, il y a cette affirmation, hein, avant qu'Abraham, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Je suis la porte des brebis. Je suis le bon berger. Je suis le Fils de Dieu. Je suis dans le Père. Je suis la résurrection et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis avec vous. Il y a si longtemps que je suis avec vous, dit-il à Philippe, et tu ne m'as pas connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père ? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Croyez-moi, je suis dans le Père et le Père est en moi. Vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Je suis le vrai cep et vous êtes les sarments. Mon Père est le vigneron. Le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti du Père. Je suis venu dans le monde. Maintenant je quitte le monde et je retourne au Père. Tout ce qui est à moi, dit-il dans la prière sacerdotale en Jean 17, ils ont reconnu que je suis sorti de toi, tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Il prie afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et que je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, et que le monde croit que tu m'as envoyé. Et enfin, il finit en disant, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Dieu s'est manifesté de manière historique au monde par son Fils Jésus-Christ. Il se manifeste aujourd'hui dans son Église au travers de ses enfants. Dieu a choisi d'être présent dans le monde par son Église au travers de ses enfants. En se manifestant par le Saint-Esprit, Dieu veut révéler clairement son existence et sa nature dans le monde au travers de son Église. Si donc Dieu, par son Esprit Saint, nous confie un don c'est pour manifester sa nature et ses perfections au travers de nous. C'est ça que ça veut dire. Si Dieu, par son Esprit, nous confie un don, c'est pour manifester sa nature et ses perfections au travers de nous. Je le répète parce que ça donne à réfléchir, n'est-ce pas ? Ça peut même donner le vertige. Dieu veut révéler sa nature et ses perfections dans ce monde au travers de moi, son enfant. Alors on peut, en partant de là, on peut se poser la question, mais est-ce que tous les dons que Dieu donne sont des dons spirituels ? Tout ce que nous mettons en œuvre, est-ce que c'est spirituel ? Est-ce que de venir faire le ménage, par exemple, ici, c'est spirituel ? Est-ce que ça relève du don spirituel ? Alors, Ruth et Francisca, je ne sais pas, elles sont venues cette semaine et elles ont fait le ménage. Et en faisant ça, elles ont manifesté la nature et les perfections qui sont en Jésus-Christ. Vous savez ça? En venant faire le ménage, elles ont manifesté la nature et les perfections qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'elles étaient animées de la motivation la plus importante. Et cette motivation la plus importante, c'est l'amour. L'amour pour Dieu, l'amour pour les frères et sœurs, l'amour pour l'Église. Dieu se manifeste au travers de l'Église, il se manifeste au travers de chacun et de chacune. Alors d'après Henri Briand, hein, nos églises ressemblent trop souvent à un match de foot, ou peut-être de rugby, hein, c'est la Coupe du Monde de rugby, vous êtes peut-être plus branché rugby, mais le problème est le même. Alors un match de foot où on trouve 22 équipiers qui ont besoin de repos, et des dizaines de milliers de spectateurs qui ont besoin d'exercice. Et là je ne parle pas de tous ceux qui sont devant la télé avec leur pack de bière, hein. Dans l'œuvre de Dieu, il n'y a pas de spectateurs. Dans l'Église, il n'y a que des acteurs. Il n'y a que des gens qui ont mis le maillot et les crampons, si je reprends l'image du foot ou du rugby. Parce que chacun est utile. 1 Pierre 4, 10 nous dit, puisque chacun a reçu un don, mettez-le au service des autres en bon attendant de la grâce si diverses de Dieu. Et nous, on l'a lu plus haut, en Jean 17, 10, c'est ainsi que Christ est glorifié en nous. Chacun, chacune a reçu le don du salut, a reçu au moins un don spirituel par lequel il peut manifester la nature et les perfections de Dieu dans l'Église. Et donc, c'est important. C'est indispensable de mettre son don en œuvre dans et en faveur de l'Église. Aucun de ces dons n'est insignifiant et aucun de ces dons donnés par Dieu est inutile. Citation de Benjamin Franklin. Un clou manquait et le cheval perdit son fer. À cause de ce fer manquant, le cheval fut perdu. N'ayant plus le cheval, le cavalier fut perdu, capturé et tué par l'ennemi, tout cela à cause d'un simple clou de fer à cheval. Et certains rajoutent, et la guerre fut perdue. Un simple clou, ça peut paraître insignifiant, n'est-ce pas? Paul cite un exemple, une variété de dons dans ce texte. Sagesse, connaissance, foi, guérison, miracle, prophétie, discernement des esprits, diversité des langues, interprétation des langues. Et cette liste n'est pas exhaustive. Il y a d'autres listes de dons. Dieu se manifeste au travers de chacun. Chacun a la responsabilité de mettre son don en œuvre pour que Christ soit glorifié au milieu de nous. Si Dieu se manifeste au travers de chacun, Dieu se manifeste en faveur de toutes et de tous. Ce texte nous dit que les dons sont pour le bien commun. Ils sont à l'usage de tous. Alors évidemment, ça exclut d'emblée le besoin d'épater la galerie, et ça exclut d'emblée le besoin d'utiliser le don à titre d'épanouissement, en ayant comme objectif l'épanouissement personnel. Tout le monde connaît la devise des trois mousquetaires. Un pour tous et tous pour un. Bon, je vois que vous êtes des lecteurs assidus des grands classiques. Est-ce que vous êtes des spectateurs assidus des grands classiques ? Est-ce que vous savez comment cette devise a été parodiée dans le film La folie des grandeurs ? Tous pour un et chacun pour soi. Ouais, c'est ça dans La folie des grandeurs, ils ont un petit peu tordu le sens, hein. Tous pour un, chacun pour soi. Et si on se laisse aller, on pourrait même pousser jusqu'à dire tous pour moi. tous pour moi. Dans l'Église, c'est chacun pour tous. Et tous pour chacun. Comme le dit un cantique, hein, il n'y a pas de chacun pour soi, pas plus que tous pour moi. L'exercice de ton don est important dans l'Église, parce qu'il est avantageux pour tous. Tous tirent avantage de la manifestation de l'Esprit que Dieu t'a accordé. Mais cela ne s'arrête pas là. En exerçant ton don, tu deviens un exemple et un encouragement pour les autres, d'abord dans le même sens que ton don, par exemple. En exerçant, si tu as le don de libéralité et tu l'exerces, ben tu encourages les autres à plus de libéralité. Alors tu peux les encourager de cette manière-là, mais tu peux aussi les encourager en les motivant par l'exercice de ton don à les pousser à exercer le leur. En exerçant ton don, tu motives les autres à exercer leur propre don. Il y a unité de source pour tous les dons spirituels, c'est le Saint-Esprit. Et il y a aussi unité d'objectif, c'est le bien commun, le bien de l'Église, de l'ensemble des membres, de tous. La conséquence de cela, c'est que les dons sont reconnus, validés, administrés par l'Église. Il n'y a pas de place pour l'individualisme ou l'indépendance dans l'exercice des dons. J'ai été très frappé, hein, par la présentation que Danny Amos fait de son ministère. Alors je ne sais pas si tout le monde l'a reçu, en tout cas les responsables l'ont reçu. Alors Danny Amos, il a un CV évangélique long comme un avant-bras, hein. Mais il ne dit pas moi. Il ramène tout à l'Église à laquelle il est rattaché. Voilà, je travaille dans le cadre de cette union d'Église. Si vous voulez, reportez-vous à cette union d'Église. Et si vous, voilà, et tout est rapporté à cette union d'Église. Et c'est assez étonnant et c'est un très bel exemple, hein. Dieu ne nous a pas donné des dons pour qu'on bombe le tour, c'est qu'on fasse cavalier seul, mais pour que ce don soit au service de l'Église, qu'il soit porté au crédit de l'Église. Et voilà ce que nous dit Paul dans Éphésiens 4, 16. C'est de lui, et grâce à tous les liens de son assistance, que le corps bien coordonné et formant un solide assemblage tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans l'amour. Je voudrais conclure par un enseignement qui est très connu, hein, dans le monde anglo-saxon, probablement sur la côte opposée de l'Atlantique, qui est tiré de l'observation des oies et qui vraisemblablement est issu de l'Église luthérienne américaine. Alors je ne vous garantis pas que tout ce qui est dit ici soit validé par l'observation scientifique de l'ornithologie, mais quand même la réflexion reste intéressante. Et voilà ce que dit cet enseignement connu. Lorsque l'oie bat des ailes, elle crée un mouvement ascendant pour l'oiseau qui suit. En volant dans une formation en forme de V, le groupe d'oies peut économiser jusqu'à 50% d'énergie et accroître la distance parcourue de 71% par rapport à ce que peut accomplir une oie isolée. Application. Les gens qui partagent un intérêt commun et un sens de la communauté peuvent parvenir là où ils veulent aller plus rapidement et plus facilement parce qu'ils s'encouragent en marchant ensemble. Lorsqu'une oie dévie du groupe, elle ressent immédiatement la résistance de l'air et cherche vite à revenir dans le groupe pour utiliser à nouveau le mouvement ascendant de l'oiseau qui est devant lui. Application. Si nous avions la jugeote aussi développée que les oies, nous resterons ensemble en allant dans la même direction, en acceptant d'aider les autres et en acceptant d'être aidés. Lorsque l'oie qui est devant est fatiguée, ben elle cède sa place à une autre qui prend alors la tête de la formation. Application. Il est avantageux de partager les tâches difficiles et de se relayer aux tâches pénibles. Les oies qui sont derrière encouragent le leader et celles qui sont devant par des cris pour qu'ils maintiennent leur vitesse. Application. Nous devons nous assurer que les cris qui viennent de derrière ou que nous envoyons soient encourageants et non pas destructifs. Enfin, lorsqu'une oie tombe malade, qu'elle est blessée ou qu'elle rencontre la trajectoire de la chevrotine du chasseur, deux oies sortent de la formation pour la suivre, aller au sol où elles l'aideront et la protégeront. Elles resteront jusqu'à ce qu'elle soit rétablie ou jusqu'à sa mort. Elles prendront ensuite une autre formation ou rejoindront celle qu'elles ont laissée. Application. Si nous avions une jugeote aussi développée que les oies, nous resterions les uns auprès des autres dans les temps difficiles comme dans les temps où nous sommes forts. Ensemble, chacun mettant en œuvre, chacun et chacune mettant en œuvre le don qui lui a été confié par le Seigneur dans la collaboration, la solidarité, la diversité, l'unité. La grâce de Dieu se manifeste au travers de l'Église, au travers de chacun, et en faveur de chacun et de tous. Alors, je relance mon appel, si tu ne connais pas ton don, si tu ne sais pas de quelle manière tu peux manifester la nature et les perfections de Christ dans l'Église, viens me voir. Plusieurs sont venus, hein. J'ai été encouragé par le succès de ce petit questionnaire. J'ai un questionnaire, hein ? Ouais, hein ? Ouais, voilà. Je rectifie tout de suite, hein, pour pas être contredit, voilà, hein. J'ai un questionnaire qui peut t'aider. Ce que je voudrais te dire, c'est qu'il est capital que tu occupes ton poste, le poste que le Seigneur t'a confié pour l'affermissement et l'accroissement de l'Église. C'est ainsi que tu honores ton Seigneur, Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Je vous propose qu'on chante.